Tenéis siempre controladas las vuestras pertinencias. No olvides mantener siempre bajo control tus...
Si je vous demande de me chanter comme ça à l'aéroport de Barcelone, une partie du Sacre du Printemps, c'est quoi que vous chantez?
Pam pam pim pa, pim pam pim ba, di da di.
Vous êtes quoi comme instrumentiste?
Trompettiste.
Et c'est grave comme mélodie.
Oui, c'est, je suis trompette basse, c'est pour ça.
Et vous vous appelez comment?
Alexandre Fort. Alexandre Fort.
L'orchestre de la Suisse romande est parti en tournée en Espagne, et moi, je me suis greffé au voyage. Pas dans la malle d'une contrebasse à la manière de Carlos Ghosn, mais avec un micro. Et j'ai envie de vous faire vivre ce voyage orchestral de l'intérieur. De rencontrer les musiciennes et les musiciens, leur chef, Jonathan Nott, dans ce cadre plus informel, des loges, des bus et même des bistrots tapas. J'ai aussi envie de percer quelques secrets du répertoire que l'OSR interprète pour ses trois concerts. En particulier, le Sacre du Printemps de Stravinsky. Et je vous expliquerai pourquoi. Barcelone, Tenerife, Las Palmas, vous voici prêts à embarquer. Première étape, Barcelone.
Je m'appelle Céleste Marie Roy, je suis bassin solo de l'OSR depuis 1997.
Cette première phrase du basson, c'est vous qui ouvrez le concert. C'est quelque chose qui est stressant.
Bien sûr. En fait, c'est peut-être l'extrait pour le basson le plus exigeant de notre répertoire. Par exemple, il a écrit à cette époque, 1913, c'était le premier concert à Paris. Et donc, c'était vraiment pas une tessiture normal pour le basson à cette époque. C'est très aigu, très exigeant parce que ça commence assez piano, ça doit être très contrôlé et c'est une phrase assez longue dans l'aigu du basson. Donc oui, c'est assez stressant, on peut dire. Je dois faire attention, je fais rien du tout. Je reste dans la chambre, room service. Je dois vraiment dormir beaucoup pour que je sois toujours en forme. Je pense que Stravinsky voulait vraiment utiliser le couleur du basson vraiment à l'extrémité. Il voulait vraiment, à cette époque, c'était par exemple très très difficile de jouer dans l'aigu. Donc il voulait ce couleur strangulated. Dérangeait vraiment le public depuis les débuts. Donc il y avait des tomates, ils ont jeté des articles sur la scène, ils n'ont jamais entendu le basson comme ça.
Le 29 mai 1913, au Théâtre des Champs-Élysées, les premières mesures du Sacre ont à peine commencé et en effet, des ricanements se font entendre. Et Jean Cocteau raconte ses premières impressions.
Sacre du Printemps avait été le scandale type. Et le scandale est venu de ce que les habitués du ballet russe n'y comprenaient rien, et que derrière les loges de Corbeil, il y avait tous les jeunes de Montparnasse, qui en sont presque venus aux mains avec les belles dames qui occupaient les loges. On voit toujours la vieille comtesse de Pourtalès debout dans sa loge de Corbeil, agitant son éventail de plumes d'autruche et criant « Depuis 60 ans, c'est la première fois qu'on ose se moquer de moi !»
Le scandale est d'autant moins compréhensible pour Stravinsky qu'il n'a pas conscience d'avoir fait du neuf. Ça, c'est le journaliste Lionel Esparza qu'il rapporte dans son livre consacré à Stravinsky. Il y a un entretien entre le chef Manuel Rosenthal et le compositeur, où ce dernier dit « Je n'ai rien inventé dans le Sacre. On n'invente jamais rien de toute pièce. Les mélodies, je les ai prises dans la liturgie slavonne et dans le folklore russe. Le solo de basson du début, je l'ai entendu un jour, note pour note, joué par un corps des alpages dans les montagnes suisses. »
Steve Roger, c'est quoi l'histoire des tournées de l'OSR et en particulier en Espagne?
L'Orchestre de la Suisse romande a une longue habitude de tourner à l'étranger. Il a commencé dans les années 50.
Steve Roger, directeur général de l'Orchestre de la Suisse romande.
Puis ça s'est vraiment amplifié au début des années après 2000. Tout simplement parce que c'est une possibilité d'être en concurrence avec les autres orchestres, de montrer le savoir-faire de l'Orchestre de la Suisse romande, tant dans son répertoire que dans d'autres répertoires. Alors, auparavant, c'était plutôt un répertoire très lié quand même à la musique française. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'identité de ce type-là qui est demandé à l'étranger. Là, on vient avec du Stravinsky, alors ça, c'est l'ADN de l'orchestre, tout de même. Mais vous voyez, on fait le Sibelius Concerto pour violon, qui est un peu à part. Mais c'est important de se mesurer à l'ensemble des orchestres autour de la planète.
10 ans après la création du Sacre, Ernest Ansermet, fondateur de l'OSR, raconte au micro de la RTS comment il a rencontré Igor Stravinsky après un concert à Montreux.
Il vint se présenter à moi, m'invita chez lui et me fit connaître ses œuvres que je ne connaissais pas encore. Entre autres, L'Oiseau de feu, Petrouchka, Le Sacre du printemps. C'est donc par lui et à travers lui que j'ai appris à comprendre sa musique. Ces innovations harmoniques et rythmiques n'ont jamais été pour moi un problème parce qu'il m'en avait fait comprendre la nécessité en me disant ce que, dans sa musique, il avait voulu exprimer, signifier ou représenter.
On va où aujourd'hui ?
L'OSR Voyage, aujourd'hui Tenerife.
Musicien alors aussi, hein ? Et vous êtes qui, avec vos claquements de doigts ?
Moi, c'est Marc Sapin. Je suis un ancien percussionniste qui, suite à des problèmes d'oreille, a décidé de changer d'orientation et j'ai profité d'une merveilleuse opportunité pour intégrer l'orchestre en tant que garçon d'orchestre. Et puis, donc maintenant, je suis en charge de tout ce qui est chaises et pupitres, enfin, c'est-à-dire tous les aspects techniques pour l'orchestre.
Vous êtes l'homme en noir de l'OSR et ça fait combien de temps que vous travaillez pour l'orchestre ?
J'ai fait une dizaine d'années en tant que supplémentaire percussionniste, donc j'ai vu passer pas mal de chefs d'orchestre et aussi pas mal d'administrateurs. Ça fait 25 ans que je suis dans la technique.
Je cherche les percussionnistes, je suis au bon endroit ?
Oui, tout à fait, vous êtes bien au bon endroit. Je m'appelle Loïc.
Je vous ai vu un peu travailler la partition, j'avais des questions. Et vous avez vachement de baguettes et de maillets différents. Pourquoi ?
Moi, je compare ça à un peintre qui a différentes sortes de pinceaux, plus ou moins larges, plus ou moins gros, plus ou moins fins. Nous, on a des baguettes qui sont faites de différentes matières afin que le son soit plus ou moins doux, plus ou moins dur, plus ou moins lourd, plus ou moins léger. Donc, il y a des baguettes en bois, des baguettes en feutrine, des baguettes en coton, des baguettes en plastique.
Il y a un grand set de percussions dans cette œuvre, avec notamment une percussion qui vient de la salsa.
Alors c'est le güiro. Donc dans cette œuvre, pour que l'effet soit d'autant plus audible, il y a 2 güiros.
Là, il y a une énigme. Comment on peut expliquer la présence des güiros dans le Sacre de Stravinsky ? C'est assez intriguant que ces instruments traditionnels de la musique latino-américaine, qu'on retrouve entre autres à Cuba, se retrouvent intégrés à cette partition du début du XXe. On trouve une piste dans un livre d'entretien mené par le chef d'orchestre américain Robert Kraft avec Igor Stravinsky. Voici ce qu'il dit. Naturellement, je suis attiré par de nombreux instruments orchestraux non traditionnels, et particulièrement les percussions. Alors là, on sait que Stravinsky, il aime les percussions. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1900, à Paris, en pleine belle époque, le tango, la rumba débarque. Alors très certainement, le compositeur qui se trouvait à Paris, il a dû les entendre, ces güiros, et il les a intégrés à sa partition. Stravinsky, il aimait le jazz aussi. Alors pour le voyage jusqu'à Las Palmas, on va s'écouter une version revisitée du Sacre par le batteur japonais Takeshi Inomata.
Good morning, ladies and gentlemen. This is Susana Calcuro speaking. My name is Sara Padilla. We hope you enjoy the presentation of Captain Rafael Avellano. The crew welcome you aboard to aircraft ETR 72 Simple with destination to Gran Canaria.
Comment puis l'hélice, ça y est plus?
Ah, strangers in the night.
On va où là?
Las Palmas maintenant. Là, on va. Il y a le vol pour Las Palmas d'une demi-heure.
Est-ce que vous êtes déjà allé à Las Palmas?
Oui, il y a une vingtaine d'années, on est venu avec l'orchestre ici.
Alors ça fait pas partie du sacre, c'est l'éclat de rire de l'orchestre qui est en train de travailler dans la salle de Las Palmas, parce que il y a eu une petite erreur, et c'est ça aussi qui fait du bien quand on est en tournée comme ça, c'est que tous les musiciens sont détendus, et surtout là, parce que c'est le dernier concert, ils ont envie de tout donner, et ils sont aussi capables de se marrer entre eux.
Je m'appelle Julie Heyrich, je suis la cor solo de l'OSR depuis plus que 30 ans.
Qu'est-ce que ça fait de jouer une œuvre comme ça pendant 5 jours d'affilée?
En tout cas, de jouer une telle œuvre, c'est toujours un événement. Chaque fois, je suis consciente de les degrés d'expérimentation que Stravinsky a pratiqué avec cette œuvre et les défis qu'il s'est mis pour briser tous les codes. Et maintenant, ça devient un standard, mais en même temps, ça reste une pièce tellement excitante et tellement complexe rythmiquement et tellement... Ça nous pousse nos consciences, nos esthétiques. Il a de tout. Il a du chaos, il a de beauté. Et de faire ça 5 fois d'affilée, c'est juste très fort. Je veux dire, depuis ma place, ça, c'est vraiment impressionnant physiquement. De supporter la charge sonore avec les années. Mais ça nous prend avec, parce que le rythme est tellement fort. La première fois que j'ai entendu cette pièce, à 12 ans, et les corps, à un moment donné, les corps jouent ça vraiment très aigu, que j'ai dit, ah, ça je veux faire. Pas des concerts de Mozart, pas des trucs jolis, gentils. C'est ça, quand j'ai entendu ce thème-là, dans cette pièce, j'ai dit, je veux jouer ça.
Je m'appelle Marc Onierta, je suis altiste à l'Orchestre de la Suisse romande depuis 2019. À l'époque, j'habitais Paris, j'ai vu le concours et je me suis dit, il faut que je tente ma chance. Et puis voilà, ça a marché. Faire partie d'un orchestre, c'était vraiment mon rêve. Le rôle de l'alto, je dirais, c'est un instrument qui permet de rentrer vraiment au cœur de l'orchestre. C'est une tessiture entre les violoncelles, donc contrebasse, violoncelle. Puis il y a l'alto au milieu qui crée ce lien incroyable. Les moments que j'aime le plus, ce n'est pas forcément quand l'alto ressort le plus. Ce que j'aime, c'est justement quand, je ne sais pas si on dit ça, mais j'arrive à me fondre complètement dans le son de l'orchestre. Et ce que j'aime particulièrement, c'est le début en fait. C'est commencer piano, pianissimo avec cette texture qui est très aérienne dans la salle. Et voilà, il y a un silence incroyable et puis on démarre tout doucement et ça crée tout de suite une atmosphère magique. C'est un très bon début de concert.
On termine un peu par le début. Parce que cette pièce, c'est le clair de lune de Debussy qui ouvrait le programme de concert de l'OSR. Et dans cette salle à Las Palmas, aux Canaries, construite par l'architecte catalan Oscar Tusquets Blanca, une salle comme un phare avec une vue sur l'océan. Tout d'un coup, l'écume des vagues, le mouvement était comme le métronome de l'OSR. Stravinsky et Debussy étaient amis. Ils ont échangé une longue correspondance. J'ai encore dans ma mémoire le souvenir de votre sacre. Cela me hante comme un beau cauchemar, écrivait Debussy. Et son clair de lune a aussi inspiré des jazzmen comme Kamasi Washington. Et c'est avec lui qu'on va refermer le podcast.
Parce que finalement, la musique, c'est une grande traversée. Et il n'y a pas besoin d'avoir des îlots, la musique classique ou contemporaine d'un côté, le jazz et les musiques traditionnelles de l'autre. L'OSR Voyage, un podcast du temps, réalisé par Juliette de Van Gardonne.